Bonjour et bienvenue au balado « Comprendre le financement climatique d'Affaires mondiales Canada ». Je m'appelle Katia Maud-Laflamme, déléguée commerciale responsable du développement des affaires en financement climatique. Entre 2015 et 2021, le gouvernement du Canada a promis 2,65 milliards de dollars pour le financement de l'action climatique dans les pays en développement. Les objectifs de ce financement comprennent des solutions comme les technologies propres et les énergies renouvelables et visent à soutenir la création d'emplois et les occasions d'affaires pour les femmes dans les secteurs de l'énergie renouvelable. Donc, le Canada collabore continuellement avec ses partenaires à l'international afin de contribuer directement aux investissements dans les énergies propres. Et dans ce contexte, il me fait plaisir de discuter aujourd'hui avec M. Olivier Mussa, responsable des investissements à la Société financière internationale dans Groupe Énergie mondiale. M. Mussa est expert des placements en actions et des placements par emprunt pour les projets en infrastructure énergétique et bénéficie de nombreuses années d'expérience tant au public qu'au privé, notamment avec la Standard Chartered Bank de Londres. Bonjour M. Mussa, merci de vous joindre à nous.
Merci Katia, bonjour.
Donc pour commencer, pouvez-vous nous décrire le travail que fait la Société financière internationale dans le secteur de l'énergie?
Oui, peut-être pour donner un petit peu de contexte sur la SFI d'abord. On fait partie du groupe de la Banque mondiale et on est le côté secteur privé de la Banque mondiale. Donc, notre rôle particulier est d'investir en tant qu'investisseur de private equity normal, en tant que banque, dans des projets, dans les marchés émergents qui sont les marchés qui sont là où on a un rôle de développement et de s'assurer que l'on crée des emplois, que l'on réduit la pauvreté. Et notre balance sheet, désolé, je vais recommencer parce que je ne sais plus comment dire balance sheet en français. Nos actifs, voilà. Désolé Katia, je recommence. Donc, pour donner je ne parle plus assez français. Hein. Donc, pour donner un petit peu de perspective sur la mission de la SFI. Donc, nous faisons partie du groupe de la Banque mondiale qui a vraiment pour goal de réduire la pauvreté et de donner des emplois dans les marchés émergents qui ont vraiment besoin d'investissement. Nous, on prend vraiment le côté investisseur privé. Donc, on se met comme un private equity, comme un développeur et on fait donc des investissements, effectivement, des investissements bancaires, des investissements de financement de projets, des investissements directs. Et donc là, nous avons des actifs d'à peu près plus de 60 milliards de dollars. Et dans le département infrastructure dans lequel l'énergie fait partie, on a plus de 11 milliards de dollars d'actifs réels, dont une grande partie sont dans l'énergie. Donc j'espère que ça donne un petit peu de background sur ce que l'on fait. Et effectivement, on a la grande flexibilité de pouvoir être investisseur, prêteur, développeur, où on vient assez tard dans des projets pour s'assurer que ces projets soient pérennes, soient faits de la meilleure façon possible du point de vue environnemental, du point de vue des communautés et avec les standards les plus hauts possibles. Pour qu'ils bénéficient évidemment aux communautés locales et aux gouvernements dans lesquels nous travaillons.
Et justement, quelle région ou quel secteur émergent vous paraît particulièrement prometteur ou intéressant pour la société?
Donc, pour nous, et je ne parle que vraiment du côté énergie, on a des stratégies qui sont très focalisées sur d'abord les régions et puis les pays. Donc, par exemple, du point de vue énergétique, un des plus gros problèmes que l'on a en Asie, c'est la génération d'énergie au charbon. Pour donner une idée, on va dire que 70% des investissements prévus dans le charbon globalement, au niveau mondial, viennent d'Inde et de Chine. Alors qu'en même temps, la Chine est aussi le plus grand investisseur dans tout ce qui est panneaux solaires. Quelle est l'action que l'on peut avoir dans la région? Du point de vue énergie et du point de vue IFC, SFI Banque mondiale, ce sera justement de trouver, on regarde beaucoup tout ce qui est offshore wind, qui est vraiment la nouvelle technologie qui marche très bien en Europe, qui maintenant marche bien en Amérique du Nord. On regarde aussi, depuis une dizaine d'années maintenant, la distribution de gaz naturel liquéfié. qui permet de réduire quand même de façon substantive les côtés négatifs des émissions de charbon. Alors que, par exemple, on regarde en Amérique latine, qui est un marché d'électricité assez mature, on regarde un peu plus dans tout ce qui est distribution, stabilisation du réseau, parce que c'est un réseau relativement ancien qui avait été construit autour de quelques grands générateurs hydrauliques ou charbon. Et maintenant que l'on rajoute beaucoup d'investissements, par exemple solaires ou éoliens, il faut mettre de la stabilité dans ce réseau. Donc, on investira des batteries. Pour le cas du Chili, par exemple, qui a beaucoup d'énergie verte, maintenant que l'hydrogène devient une réalité, on travaille avec le secteur minier pour que les unités industrielles qu'ils utilisent, par exemple, tous les énormes camions qui servent au transport de tous les produits miniers, qu'on les transforme en hydrogène, qui sera donc une énergie verte. Et ce qui se passe, par exemple, en Afrique est assez différent, où on a une population qui a, en Afrique subsaharienne, plus des deux tiers de la population n'a pas accès à l'électricité de façon normale. Et alors que c'est un continent qui représente plus de 20% de la population mondiale, représente qu'à peu près 1% du GDP mondial et moins de 0,5% des émissions mondiales. Et là, on prend justement un point de vue un petit peu différent parce qu'en fait, la réalité, c'est que la problématique environnementale du carbone, des émissions, ne vient pas de l'Afrique. Mais par contre, ils ont vraiment un besoin en énergie qui soit compétitive, qui soit moderne et qui soit là et beaucoup plus grand. Et on a eu un exemple assez récemment où, par exemple, au Mozambique, on avait eu des questions de pourquoi investir dans une centrale d'électricité gazière plutôt que de faire du solaire. Et on a pu démontrer que pour l'équivalent de 7 centrales gazières qui auraient un effet minuscule sur le climat, mais plus que minuscule, il fallait mettre l'équivalent de tous les panneaux solaires existants dans l'Afrique actuellement. Donc, il faut tout mettre en perspective et savoir vraiment où est notre bataille climatique et où est-ce qu'on aura le plus d'impact pour in fine, un montant d'argent relativement limité, parce que bon, 60 milliards de dollars, c'est pas comme ça qu'on va régler les problèmes du monde.
Je comprends. Et donc, pour le bénéfice de mes collègues du Service des délégués commerciaux du Canada et aussi pour les firmes canadiennes, est-ce que vous pourriez nous expliquer qu'est-ce qui, pour vous, représente un succès en matière d'investissement?
Sûrement. Nous, quand on regarde nos investissements, comme je l'ai expliqué un peu plus tôt, on regarde sur plusieurs plans qui sont macroéconomiques, qui sont environnementaux, qui sont du projet en lui-même. Et suivant certaines régions, par exemple, est-ce qu'un pays comme le Kenya, qui a un secteur qui est relativement mature, quel était le besoin? Et donc, on s'était dit, il y a cinq ans, il faut trouver le moyen de mettre plus d'énergie solaire, mais de trouver le moyen de réduire les coûts. Ce qui est important, on va dire, c'est que souvent, on met un projet en perspective du véritable besoin pour les 20 prochaines années. Et que donc, ce qu'un investisseur ou un project developer voit, lui, comme un projet très alléchant pour diverses raisons, pour nous, pourrait ne pas faire de sens. Ou au contraire, un développeur aura dit « Ah, mais je voulais importer du gaz en Sierra Leone, mais en fait, ça me paraît un peu risqué parce qu'il n'aura vu qu'une dimension du projet. » Donc, pour nous, on regarde toujours est-ce que l'environnement macroéconomique est le bon? Est-ce que notre stratégie, est-ce que ça fit dans la stratégie? Et surtout aussi, est-ce que la réglementation permet que le projet en lui-même soit pérenne, puisque à la fin, on peut avoir un très, très beau projet, mais comme on dit, ce n'est pas la peine de construire une Ferrari si c'est pour la conduire sur un chemin de terre. Et que donc, il faut adapter le projet à son environnement. Et on ne dit pas qu'il faut que l'environnement soit parfait, mais il faut qu'on ait un plan pour que l'environnement réglementaire et le marché arrivent à être sustainable en lui-même et donc avoir ces discussions avec le gouvernement. Et le plus important à la fin, c'est l'équipe de management. Parce que donc un projet qui est médiocre pourra être sauvé par une très bonne équipe de management. Une mauvaise équipe de management va toujours réussir à faire tomber un très bon projet. Donc, ça fait partie des choses que l'on regarde, de l'environnement que l'on regarde. Et par rapport à vos collègues et aux développeurs, surtout canadiens, qui veulent comprendre ou qui veulent arriver dans le nouveau marché, ce que l'on dit toujours, c'est venez nous parler très vite, très tôt, dans votre réflexion. À la fin, nous sommes là pour aider le pays et aider les développeurs. Donc, on préfère guider tôt avant que des erreurs soient faites.
Absolument. Et pour poursuivre dans la même veine, je pense que vous avez en partie déjà répondu à ma question, mais je vous donne l'occasion de promouvoir davantage les services d'ISC. Donc, à quel niveau la Société financière internationale peut fournir du soutien aux initiateurs de projets dans les firmes canadiennes?
On a plusieurs initiatives. Donc, par exemple, l'initiative la plus tôt possible est ce qu'on appelle InfraVentures. Et c'est vraiment Venture Capital pour de l'infrastructure. On est parti de la réalisation que souvent, il y a plus d'argent que de projets qui sont bancables. Et donc là, dans ces projets-là, on cherche des partenaires où on a une idée. On a, un laboratoire en interne d'idées. Et on s'est dit, il faut qu'on explore un peu ce côté-là. Et parfois, ça vaut le coup d'explorer avec un opérateur qui a aussi cette espèce d'idée et de mettre vraiment, entre 2 et 5 millions de dollars à risque pour essayer de germer ça dans un vrai projet qui, lui, aura peut-être besoin de plusieurs milliards de dollars. On a eu ce cas avec un grand barrage au Cameroun qui s'appelait Nachtigal, où à la fin, on avait avec un développeur commencé ça et puis c'est devenu suffisamment mature pour qu'une très grande entreprise d'énergie soit venue comme investisseur principal. On arrive aussi sur des moments plus tard dans le cycle de vie d'un projet. Et là, on peut être effectivement en fonds propres, en prêt, aller sur le marché pour lever un bond. Donc, on a une grande flexibilité qui est quand même très, très appréciable et que toutes les DFI ne font pas. Mais on a aussi un côté advisory. Par exemple, s'il y a un très grand projet ou qui nécessite la construction d'une route sur 400 km, il faut on ait un développeur qui a une expérience internationale, mais pas forcément sur une échelle aussi grande qui passe sur plusieurs pays. Comment s'assurer que les problèmes d'environnement, de communauté, de genre sont bien gérés? Parce que la sustainability passe aussi par là et que financial sustainability c'est un côté, mais la réalité c'est que si au bout de 2 ans les communautés pensent qu'on leur a menti ou les jobs qui ont été promis ne sont pas arrivés, très très rapidement on peut se retrouver avec notre route bloquée. Donc il faut être très réaliste et puis malheureusement quand on est la tête dans le guidon, comme on dit en français. Il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas, mais l'avantage, c'est que nous sommes sur le terrain tout le temps et qu'on est prêt à faire et à aider dans ces dialogues avec le gouvernement. Mais on revient à la base, c'est que plus tôt on nous met dans la boucle, le plus tôt on peut aider à faire que le projet soit un succès.
Compris. Donc, dans les 10 dernières années, comment est-ce que vous diriez que les priorités du secteur de l'énergie ont évolué?
Clairement, l'angle climatique a continué à augmenter. Je pense que les premières pressions, on les a vues dès début 2010. En 2015, avec la COP 21 et puis les accords de Paris, on a encore poussé plus loin. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on a dit qu'on ne ferait plus de pétrole. On continuerait à faire du gaz que dans des situations très particulières et vraiment pousser sur les renouvelables. Aujourd'hui, tout investissement que l'on fait est vu dans le contexte du climat, parce que clairement, les objectifs qui ont été mis pour s'assurer qu'on reste dans les 2 degrés, pour l'instant, on ne les atteindra pas si on continue à faire ce qu'on fait. Donc, on continue beaucoup à pousser dans ce sens-là. Maintenant, on voit aussi toutes ces nouvelles énergies qui arrivent et qui n'ont pas d'environnement qui leur permettrait de se développer. Donc, je parlais un petit peu des batteries un peu plus tôt. Donc, un investissement en batterie, que ce soit en Corée, en Australie, aux États-Unis, maintenant ça marche, c'est bancable, mais c'est pas encore véritablement bancable dans nos marchés à nous. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour créer cet environnement? Après ça, le côté éolien offshore, pareil, qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir une technologie qui est mature, mais avec des investisseurs qui se disent, j'ai encore tellement de travail à faire aux États-Unis ou en Europe, pourquoi est-ce que j'irai en Inde? Donc, ça fait partie de notre travail à pousser. Bon, l'hydrogène, il semblerait, soit maintenant une des solutions promues. Pendant très longtemps, l'hydrogène a été vu comme quelque chose de beaucoup trop cher, beaucoup trop compliqué. Donc, on essaye de vraiment d'être à la pointe de la technologie et de la régulation, de la réglementation, mais à côté de ça, comme je disais un petit peu plus tôt sur l'Afrique, c'est les populations avec lesquelles on travaille ont besoin d'énergie maintenant, pas dans 20 ans. Donc, il faut balancer.
Oui, donc je comprends qu'il y a énormément d'opportunités et énormément de ressources à la disposition des firmes canadiennes. Donc, merci beaucoup, M. Olivier Moussard, d'avoir partagé vos connaissances avec nos clients aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un dernier message que vous voudriez communiquer avec notre public?
Écoutez, nous sommes le seul message que je peux dire, c'est vraiment ne venez pas nous voir à la dernière minute, parce qu'un problème qui existait il y a un an continuera à exister, et que surtout, il ne faut pas avoir peur. La Banque mondiale, oui, c'est un énorme porte-avions, mais notre porte est toujours ouverte, parce que notre mission, c'est de s'assurer que le projet que vous voulez faire dans nos pays émergents soit successful et le plus rapidement possible. Donc, n'hésitez pas.
Parfait. Donc, sur ces bons mots, notre balado se termine. J'aimerais en profiter pour lancer une invitation à tous de nous faire part de vos impressions suite à cet entretien sur les réseaux sociaux et à partager ce balado dans vos réseaux. Restez aussi à l'affût des entretiens à venir dans le cadre de la série « Comprendre le financement climatique d'Affaires mondiales Canada ». Donc, merci encore une fois. À bientôt.
Merci, Katia. À bientôt.